France Culture.
Tout de suite, on fait le point sur l'information. C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. La guerre, toujours et encore au Moyen-Orient. Nous serons au Liban dès le début du journal. Parmi les populations déplacées, on s'intéressera par ailleurs aux ambiguïtés stratégiques cruciales du fameux détroit d'Ormuz. Ce goulet d'étranglement d'à peine quelques dizaines de kilomètres est devenu aujourd'hui la carte maîtresse de Téhéran pour trouver une issue à ce conflit. Enfin, on fera le point sur la forte volatilité des prix des carburants et ses conséquences en France pour les consommateurs comme les professionnels. À suivre également dans ce journal, les élections municipales. À 4 jours du premier tour de scrutin, la question des alliances, à gauche comme à droite, alimente les débats et plus encore, on le verra, les polémiques. Enfin, 15 ans, jour pour jour, après la catastrophe nucléaire de Fukushima, on s'intéressera avec notre invité à la vie quotidienne en territoire contaminé. Au 12e jour de la guerre, qu'il semble encore difficile d'en deviner l'issue, il faut dire que l'aventurisme sans aucun garde-fou des États-Unis et d'Israël, totalement improvisé chez les uns, déchaîné chez les autres, n'aura pas tardé à provoquer une véritable déstabilisation chaotique de toute la région avec des conséquences humanitaires, politiques, économiques, mondiales, mais aussi géostratégiques, dès lors que le seul vrai gagnant, a priori jusqu'à présent, se nomme Vladimir Poutine. Quoi qu'il en soit, personne ne sait aujourd'hui où mènera ce conflit, escalade incontrôlée ou nouvelle guerre d'usure, à moins que chacun soit à même, pour une fois, de revoir ses ambitions afin d'entamer de nouvelles négociations. En attendant, les bombardements se poursuivent, en particulier sur la capitale Téhéran. La journée d'hier aura été l'une des pires en Iran depuis le début de la guerre. De son côté, la République islamique a répliqué dans la nuit en lançant sa vague de frappe la plus violente et la plus lourde, notamment contre des cibles militaires américaines, mais aussi un champ pétrolier en Arabie Saoudite. Enfin, le Liban continue lui aussi à être systématiquement pilonné. Au total, plus d'un demi-million de personnes ont déjà trouvé la mort et près de 800 000 hommes, femmes et enfants ont dû être déplacés. C'est le cas en particulier des habitants d'un village chrétien évacué hier par les casques bleus de la Finul. 83 personnes y étaient confinées depuis plus d'une semaine dans une église. Signe que la situation ne cesse de se détériorer dans le sud du Liban. C'est un reportage signé de notre envoyé spécial Étienne Monin.
Quand il gare sa Hyundai blanche à Beyrouth, Shadi Sadeh se passe les deux mains sur les yeux. C'est le maire du village, il a l'air épuisé.
On est parti les larmes aux yeux, on n'est pas des déplacés, on nous a déplacés.
Le convoi est parti vers 9h, il y avait une cinquantaine de voitures. Elles étaient encadrées par les blindés des Nations Unies. Le maire dit que les villageois ont embarqué l'évangile et pas grand-chose de plus.
Ce qu'on a pris de l'église, c'est notre foi. On n'a rien pris de nos maisons. Quand tu perds ta dignité et ton honneur, tout le reste devient insignifiant.
Quelques minutes plus tard, le maire passe le porche de l'église Saint-Antoine. On voit des familles du village. Elles suivent une messe d'accompagnement pour un habitant tué 3 jours plus tôt par un tir de drone.
Sami, c'est un civil.
Nader Aid a quitté le village ce matin.
Il n'a rien fait de mal, Sami. Il était en train de s'occuper de son potager. Il était en train d'arroser. Quand il est mort, il avait encore le tuyau entre les mains.
Pour tenir, les derniers habitants se sont calfeutrés dans le sous-sol de l'église. Mais samedi, un tir est tombé à côté de la camionnette de la police. Dimanche, Sami, le vieil homme de 70 ans, est mort devant son potager. Lundi, l'armée libanaise a ordonné l'évacuation. Eli Brawi appartient à la communauté.
On avait eu des assurances qu'on était en sécurité si on restait ensemble, en groupe, sans bouger. Mais là, ni l'église, ni l'armée libanaise, ni l'ONU, personne ne nous a donné de garantie ou de promesse. Donc là, c'est soit votre vie, soit votre maison. Je ne veux perdre ni l'un ni l'autre, mais je dois perdre quelque chose. Évidemment, je ne vais pas perdre la vie, je vais perdre ma maison.
Les habitants pensaient qu'ils seraient protégés par leur statut de chrétien. En 2024, 200 maisons environ ont été détruites ou vandalisées.
Un reportage au Liban signé de nos envoyés spéciaux Étienne Monin et Martin Troadec.
Et au-delà des conséquences humaines de cette guerre, les cours du pétrole dans un marché plus que jamais volatile restent aujourd'hui encore au centre de toutes les attentions.
Le détroit d'Ormuz par lequel transite en temps de paix 1/5 de la production mondiale de pétrole et de gaz naturel liquéfié s'impose désormais comme un enjeu stratégique majeur. Son blocage menace d'asphyxier l'économie mondiale. Ce matin encore, un navire marchand y a été pris pour cible. À présent, les Américains menacent l'Iran de conséquences militaires sans précédent si Téhéran décidait de miner ce goulet d'étranglement maritime. Christian Chéneau, bonjour.
Bonjour.
Ce qui est certain, c'est que bien davantage encore sans doute que l'utilisation de ces missiles balistiques, le contrôle de ce détroit constitue plus que jamais aujourd'hui, Christian, la carte maîtresse des mollahs dans ce conflit.
Oui, dans ses ripostes sur des cibles militaires et économiques, l'Iran dispose d'un atout maître dans son jeu. De facto, le détroit d'Ormuz est actuellement contrôlé par les gardiens de la révolution qui l'ont fermé, mais pas officiellement miné à ce stade, même si l'armée américaine annonce avoir détruit 16 navires poseurs de mines iraniens. En réalité, Téhéran n'a pas besoin de bloquer physiquement cette voie commerciale et énergétique stratégique pour le commerce mondial. La menace suffit, d'autant qu'elle est accompagnée de quelques attaques ciblées. Ce matin, un porte-container, un cargo et un vraquier ont encore été touchés par des projectiles. Les primes d'assurance explosent, ainsi que les coûts du fret. Résultat, le trafic maritime s'est effondré depuis le début de la guerre, faisant grimper les cours du gaz et du pétrole. Désormais, la République islamique ne laisse passer que les navires chinois et certains battant pavillon d'autres nationalités qui ont montré patte blanche. Selon le Wall Street Journal, l'Iran exporterait aujourd'hui plus de pétrole qu'avant la guerre, essentiellement vers la Chine.
Merci Christian Chesneau. Et c'est donc dans ce contexte qu'Emmanuel Macron tiendra aujourd'hui en visioconférence une réunion des chefs d'État et de gouvernement du G7 sur l'impact économique de cette guerre. Le déblocage par les grands pays d'un volume sans précédent de leurs réserves devrait être acté dans la journée.
Et puis si le président Emmanuel Macron multiplie ainsi les réunions de crise, aujourd'hui c'est le Premier ministre Sébastien Lecornu, particulièrement discret depuis l'adoption du budget, qui devrait sortir du silence.
Le chef de l'État lui a demandé de convier à Matignon les chefs des partis et des groupes représentés à l'Assemblée et au Sénat, ainsi que les présidents des deux assemblées, pour les informer des répercussions de la guerre, que ce soit sur le plan diplomatique et militaire, mais aussi en matière énergétique et de sécurité. Il faut dire que le Parlement, en congé du fait de la campagne des municipales, n'a pas eu l'occasion jusqu'à présent de débattre de ce conflit. La réunion autour de Sébastien Lecornu est prévue à 15h. Selon son entourage, il devrait se contenter d'un rapide point de situation avant d'évoquer donc plus longuement les conséquences pour le gouvernement sans grande marge de manœuvre financière. Les précisions de Stéphane Robert.
Cette réunion, qui se tiendra cet après-midi à 15h, est organisée suite à une demande du premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, formulée la semaine dernière. Elle a pour objet de fournir aux principaux responsables politiques français, du camp présidentiel comme de l'opposition, le plus possible de renseignements opérationnels sur le conflit engagé par Israël et les États-Unis avec l'Iran. Les différents ministres et opérateurs du renseignement dresseront un état des lieux des forces en présence, des intérêts français dans la région, du nombre et de la localisation des ressortissants qu'il convient de protéger ou de rapatrier. Ils détailleront également les moyens militaires déployés sur place, ainsi que les objectifs qui leur sont fixés. Enfin, ils exposeront les enjeux à court, moyen et long terme, notamment concernant l'approvisionnement en hydrocarbures et les conséquences sur l'économie mondiale et sur l'économie du pays. Il s'agit, indique Matignon, de donner des clés de compréhension de ce qui se joue sur place, de partager la contrainte afin de responsabiliser les formations politiques et d'éviter les réactions inconsidérées dans les médias et les commentaires démagogiques. Une précédente réunion de ce genre autour de Sébastien Lecornu et en l'absence d'Emmanuel Macron s'était déjà tenue sur la guerre en Ukraine il y a tout juste un an, le 16 mars 2025. L'actuel Premier ministre était alors encore ministre des Armées.
Alors, parmi les secteurs en France qui se disent d'ores et déjà directement affectés par les conséquences de cette guerre sur la hausse des prix du carburant, on trouve bien entendu le transport routier. Il concerne plus de 400 000 salariés dans l'Hexagone. L'essence représente le deuxième poste de dépense des sociétés de transport après les salaires. Et forcément, après une augmentation de 20% des prix à la pompe en seulement 10 jours, eh bien, beaucoup de professionnels se disent inquiets, ainsi qu'a pu le constater Lou Momej.
Les transporteurs routiers ne s'attendaient pas à une hausse des prix aussi fulgurante. Entre deux courses, Abdelak, dirigeant de la société francilienne Transplease, témoigne.
Ça se ressent à la pompe. Quand mes chauffeurs mettent le carburant, il y a une hausse de 30 à 40% sur les pleins. Donc on ne peut plus proposer le transport au juste prix, ce qui implique d'énormes pertes.
Encore faut-il pouvoir se fournir. Une part importante des transporteurs achète son carburant en gros, directement à la cuve. Mais c'est devenu compliqué avec certains distributeurs, selon Noureddine Ziane, gérant de deux sociétés de transport en Aquitaine.
Aujourd'hui, nous, on commande des cuves de 36 000 litres de carburant. On n'a plus que 10 à 15% des volumes qui nous sont destinés. Donc on appelle à partir de 11h, mais il n'y a quasiment plus de produits disponibles. Donc il y a certains fournisseurs qui jouent le jeu et qui en vendent, d'autres qui les conservent soit pour leur station, soit qui ne veulent pas acheter parce que c'est trop cher.
Les organisations patronales rappellent aussi qu'avant cette récente hausse du prix du carburant, le secteur était déjà fébrile. Jean-Marc Rivera, délégué général de l'Organisation des transporteurs routiers européens, s'inquiète de voir disparaître certaines entreprises.
Depuis deux ans, on a un nombre de défaillances d'entreprises dans le secteur du transport routier de marchandises service qui est abyssal. Ça, c'est lié à l'activité qui est en berne depuis plus de 2 ans, baisse de la consommation. Et nous, on transporte des marchandises pour les magasins, on transporte du matériau pour le bâtiment. Donc, s'il n'y a pas effectivement de consommation, le transport baisse.
Afin de limiter les coûts pour les transporteurs routiers, les organisations patronales du secteur appellent donc le gouvernement à contrôler d'éventuelles dérives sur les prix du carburant à la cuve, comme ce qui est fait cette semaine dans les stations-service.
Et ce matin, au Conseil des ministres, Sébastien Lecornu a déjà mis en garde contre des mesures, je cite aussi, démagogues qu'inutiles, comme par exemple la baisse de la TVA sur les carburants.
Et c'est dans ce contexte toujours et encore que le président Emmanuel Macron a réuni hier à Paris une vingtaine de pays au deuxième sommet du nucléaire.
Oui, l'occasion d'appeler à mobiliser des financements publics comme privés pour investir dans cette technologie qui connaît, c'est vrai, un certain retour en grâce du fait des enjeux de souveraineté énergétique, sans oublier la nécessité de décarboner l'énergie. Alors cette relance de l'atome pour une énergie présenté comme sûr et accessible à tous, intervient en effet dans un contexte très particulier géopolitique, tout d'abord avec la guerre au Moyen-Orient et donc la flambée des cours du pétrole, preuve que les hydrocarbures peuvent rapidement se transformer en instruments de déstabilisation, mais pas seulement, puisque l'année 2026 marque le 40e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl et le 15e anniversaire de l'accident de Fukushima. Or, après toutes ces années, une question demeure, comment redonner une apparence de normalité? Alors, s'agissant des vestiges de la centrale nucléaire aujourd'hui à l'arrêt en Ukraine, la question ne saurait se poser en ces termes, en raison de la guerre évidemment, mais s'agissant du Japon, malgré les efforts de décontamination, malgré les incitations financières, il semble encore difficile d'effacer totalement les traces d'un drame désormais vieux de 15 ans. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Sophie Houdard, anthropologue, membre du laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative de l'université Paris-Nanterre. Bonjour madame.
Bonjour.
Un certain nombre d'habitants de la région voisine de Fukushima ont choisi de continuer à vivre dans des zones faiblement contaminées. Ce sont ces populations que vous avez donc suivies pour mener votre enquête publiée au début de l'année et intitulée « Ce territoire qui comme une pulsation », une enquête ethnographique qui documente donc comment ces hommes, ces femmes ont appris à apprivoiser en quelque sorte la radioactivité dans leur vie quotidienne. C'est ce rapport ordinaire à la radioactivité qui vous intéressait au départ?
Oui, alors effectivement, il se trouve que je travaillais sur le Japon avant la catastrophe et que comme beaucoup d'autres personnes, il y avait peu d'autres sujets qui requéraient de l'attention en comparaison de ce qui était en train de se passer. Et la question qui a été à l'origine de ce travail, c'était vraiment une question vitale, dirait-on. C'est comment est-ce qu'on respire? Comment est-ce qu'on respire dans des territoires dont on sait qu'ils sont maintenant peuplés de faibles doses de radioactivité, puis dans certaines régions, comme celle où j'ai fini par m'installer, à Towa, qui est donc dans une cinquantaine de kilomètres de la centrale de Fukushima Daiichi. Ce sont de faibles doses de radioactivité qui sont là, et donc effectivement les gens n'ont pas été déplacés et à titre individuel n'ont pas fait le choix de partir. Et donc la question qui m'a intéressée, c'est de comprendre comment c'est réorganisé leur vie et se réorganise encore aujourd'hui leur vie en cohabitation avec
Et précisément, comment la situation donc de ce village de Towa permet de se rendre compte aujourd'hui de la manière dont l'accident a morcelé malgré tout ce territoire?
Oui, mais c'est vraiment ça qui m'a beaucoup intéressé. C'est en fait les premières années. Il faut comprendre vraiment que 15 ans, ça veut dire que c'est 15 fois une année. C'est une temporalité en fait très très étendue. Chaque année, vraiment situe les gens différemment. Ils apprennent des choses, etc. Et donc les premières années après la catastrophe, les gens ont été équipés avec des instruments de mesure. Ils se sont formés eux-mêmes à des instruments de mesure, et donc la mesure a envahi tout le rapport qu'on a aux choses, aux entités naturelles, animales, végétales, etc. Et c'était ça qui déterminait les choix d'action dans la vie quotidienne. Et puis ce qui m'a intéressé, c'est qu'au terme de quelques années, les personnes se sont rendues compte que la mesure elle-même, les instruments de mesure, n'étaient pas capables de résorber toutes les incertitudes. Et donc là, ce que j'essaie de décrire dans le livre, c'est la manière dont ils vont se comporter davantage comme des naturalistes ou des éthologues. Ils vont regarder comment la radioactivité se comporte, comment elle s'immisce dans les plis, dans les creux de chaque chose. Et donc, ce que je décris, c'est leur enquête, en fait, hein, pour comprendre quelle est la place qu'occupent les radioéléments aujourd'hui et comment vivre avec ça.
Avec un rapport qui plus est paradoxal à la radioactivité, puisque vous l'avez rappelé, les doses mesurées sur place y sont inférieures au niveau d'alerte sanitaire. Le village semble, à première vue, avoir été relativement préservé et cela demande parfois aux habitants un effort conscient, délibéré, pour se rappeler qu'ils vivent bel et bien au contact, malgré tout, des conséquences de cette catastrophe.
Oui, mais ça, c'est effectivement, on pourrait penser que de faibles doses de radioactivité, c'est moins grave ou moins dramatique que des grandes doses de radioactivité. En fait, c'est grave différemment. Et une des manières dont c'est grave et dramatique, c'est que ça installe les personnes dans un régime de très grande, de très grand flou, de très grande incertitude. Et donc, parfois, on est saisi par cette contamination, par la conscience de cette contamination. Et puis parfois, ben, on l'oublie parce que par ailleurs, à Towa, comme dans beaucoup d'autres villages, hein, villes dans le département de Fukushima, c'est une campagne très belle et la catastrophe ne se manifeste pas de manière exceptionnelle. Donc voilà, on peut oublier effectivement que quelque chose est là, hein, la radioactivité, on la voit pas, on la sent pas, on peut pas la toucher. Et donc ça demande ce travail continu, hein, de s'accorder, de se rendre présent à ce qui se passe, en fait. Et c'est dans cette fluctuation-là que les personnes vivent.
C'est bien compris. Merci Sophie Houda, anthropologue, donc membre du laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative de l'Université Paris-Nanterre, d'avoir répondu à notre invitation, à cette liaison altérée. Et merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
Retour en France où, à 4 jours maintenant du premier tour des municipales, les enjeux de politique locale ont parfois vite fait de rejoindre le débat national.
Oui, c'est le cas par exemple s'agissant de la dispersion des votes, mais aussi de la question des alliances. Et c'est ainsi qu'après que le président des Républicains, Bruno Retailleau, a dénoncé la semaine dernière ce qu'il nomme comme les accords de la honte au premier tour de scrutin entre LFI et les autres formations de gauche, traitant leurs dirigeants de bande de tartuffes. Le Parti Socialiste, par la voix de son secrétaire général Pierre Jouvet, avait choisi de répliquer ce matin en dénonçant les alliances entre la droite et l'extrême droite. Adrien Toffolet, bonjour.
Bonjour.
Plus exactement, le PS, qui dit assumer aujourd'hui ses alliances locales, donc avec les Insoumis, reproche à la droite de ne pas jouer la carte de la transparence.
Oui, d'abord, les socialistes pointent du doigt d'étonnantes absences de candidatures. Des villes où, en 2020, l'extrême droite avait réalisé des scores supérieurs à 10%, donc qui étaient au second tour. Aucun candidat RN ou UDR cette année. Ces absences, selon le PS, cachent des retraits volontaires en faveur de la droite. Ils en comptent 72. Ensuite, sont répertoriés ce qu'ils appellent des transfuges, des personnes, parfois des têtes de liste, qui étaient RN en 2020 et sont désormais présents sur une liste de droite. Ils en dénombrent 575. Idem avec le transfert de la droite vers le RN, 136 personnes. Vous aurez remarqué que je me garde de citer des communes ou des candidats, car comme pour la liste présentée par le patron des Républicains la semaine dernière, elle contient un certain nombre d'erreurs ou d'imprécisions. Dans plusieurs cas que j'ai pu vérifier, ce n'est pas des candidats ou des listes LR qui sont concernés, mais divers droites ou même sans étiquette. Mais vous avez tout de même, là aussi c'est dénoncé par les socialistes, des cas de soutien établi d'élus LR envers des candidats d'extrême droite, des députés européens en faveur de la candidature UDR d'Éric Ciotti à Nice, ou des présidents de conseils départementaux qui font partie d'une liste portée par des candidats Reconquête, comme à Bourg-en-Bresse dans l'Ain. Tout cela, selon les socialistes, montre les prémices d'une fusion réelle et à venir entre la droite et l'extrême droite. Fusion qui commence au niveau local, de façon silencieuse. Du côté de LR, on s'en défend. Invité de France Inter ce matin, Gérard Larcher a assuré que les membres de LR qui soutiennent un candidat d'extrême droite n'ont plus leur place dans le parti. Mais au PS, on doute du patron des Républicains, Bruno Retailleau, et de sa volonté à exclure réellement leur propre brebis galeuse.
Merci Adrien Taufollet. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, marqué par une nouvelle perturbation pluvieuse qui traversera le pays d'ouest en est. Quant aux températures, elles seront comprises entre 8 et 14 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Axel Dubois. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.